Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les Dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Bonjour, frère Philippe.
Nous parlions de... avec le catéchisme au numéro 463 dans la section de l'incarnation, nous avions repéré ce signe distinctif de la foi chrétienne qui est la foi en l'incarnation véritable du Fils de Dieu. Et puis nous en avions profité pour bien mentionner que nous pouvons parfois nous éloigner de la foi de tradition, de contenu, en misant tellement sur une foi confiance qui des fois ôte même la relation au Christ d'une certaine façon, enfin la désincarne. Et ce qui me fait penser aujourd'hui, peut-être cette difficulté ou cette volonté de penser que la foi peut relever de nous seuls, de manière très naturelle.
Et c'est très pélagien.
Ce qui est très pélagien, de fait. Alors que me revient cette phrase de l'Écriture, « Sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Si vous gardez ma parole, vous ne connaîtrez pas la mort. » Enfin, il y a cette adhésion, cet engagement, c'est ce que nous disions. Les premiers temps de l'Église, finalement, ont été marqués par des positionnements sur qui était le Christ, comment parler de lui, qui ont été assez compliqués. Non pas qu'il n'y avait pas l'essentiel de la foi était présent bien à la base. Jésus-Christ est Dieu, Fils de Dieu, mais dans l'histoire, dans le temps, la manière d'en parler a été difficile. Et du reste, je me dis qu'aujourd'hui, on oublie que ces hérésies christologiques, finalement, ont encore leur retentissement aujourd'hui. Parfois, on n'est pas assez attentif à la façon dont nous parlons du Christ et de la foi au Christ.
Oui, on aurait un peu tendance à mettre Jésus d'un côté, Jésus de l'histoire, et puis de l'autre côté, Christ de la foi, et faire une séparation que justement... qui a toujours été repoussé par nos ancêtres dans la foi, les premiers pères. Et c'est vrai qu'au début, c'était assez fortement... la foi s'est appuyée sur le témoignage des Écritures et des apôtres qui, par exemple, comme saint Thomas, disait « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et puis, de nombreux textes du Nouveau Testament affirment la divinité de Jésus. Hébreux 1, 8... Jean 20, 28 que nous venons de citer, Romains 9, 5, Tite 2, 13, la première épître de Jean à la fin, 5, 20, tous ces passages de l'Écriture, c'était clair, Jésus était Dieu. Mais alors, du coup, il y a eu un courant qui s'est créé et qui a, d'une certaine manière, nié la vérité de son humanité. On a parlé d'une apparence à ce moment-là. On se souvient très bien que dans l'Ancien Testament, il y avait le fameux livre de Tobie, Tobie père et Tobie fils, et il y a un mystérieux personnage qui s'attache à Tobie fils pour l'emmener trouver son épouse loin de la maison paternelle, et ce personnage est en fait l'archange Raphaël. Et à la fin, il découvre qu'il n'a pris qu'une apparence humaine et il a fait cheminer Tobie fils tout du long sans lui dire qu'il était un ange de Dieu. C'est au dernier moment qu'il lui révèle que c'est un ange de Dieu. Eh bien, il y a eu toute une croyance qui a été de dire le Verbe ne pouvait pas quand même devenir homme pour de bon. Il a pris les apparences d'un homme, et c'est tout le docétisme qui a été à combattre dans les premiers temps de l'Église. Il n'y avait que des apparences dans le fond dans la vie concrète des hommes, comme les anges, et d'une certaine manière on réduisait l'apparition du Christ à une angéologie, à une réalité qui n'était pas le Verbe fait chair dans la vérité. Et il a fallu ainsi s'éloigner des origines, je dirais, juives, où le monothéisme était très fort et qu'on ne pouvait pas accepter même qu'il y ait un Verbe de Dieu. Il y avait certains courants qui le disaient, la Memra en Dieu, c'était la parole de Dieu, et certains déjà pressentait quelque chose de distinct dans l'unité de Dieu, mais en même temps, ce monothéisme était très fort et il y a eu une tentation de revenir, dans le fond, à la foi juive, hein, qui est très différente de la foi chrétienne, puisque nous nous affirmons vraiment qu'il y a trois personnes dans la Trinité, alors que pour le judaïsme, il n'y a qu'une seule personne dans la vie divine. Et ce docétisme, donc, s'est marqué en même temps par une négation de la Trinité. Vous avez par exemple un homme de grande distinction qui était Paul de Samosate à Antioche. Souvent, lorsque l'on donne le nom d'une ville à quelqu'un qui n'est pas une des métropoles chrétiennes, comme Jérusalem, Rome, Antioche, Alexandrie, eh bien, c'est souvent que la personne a un peu dévié.
Ah oui.
Parce qu'on marque souvent une origine plus modeste. C'est parce qu'il était évêque d'Antioche, Paul de Samosate. Et il a défendu, dans le fond, que la foi chrétienne pouvait se ramener à la foi juive. Il croyait en Dieu, et en un seul Dieu, puis Dieu prenait des apparences, si vous voulez, humaines, en Jésus-Christ, ou la colombe du Saint-Esprit, mais tout cela, c'était des manifestations de Dieu, du Dieu unique, toujours de l'Ancien Testament. Il a fallu donc un concile à Antioche, en 251-252, pour le condamner. L'ennui, c'est qu'à l'époque, cette partie de la Syrie était indépendante de Rome, était tenue par une reine qui s'appelait Zénobie, et Zénobie soutint l'évêque Paul de Samosate à tel point qu'il y a eu un véritable schisme à ce moment-là qui s'est fait, et c'est seulement quand Aurélien, un empereur païen, est venu rétablir la paix romaine. Vous savez, la paix romaine, c'était la guerre, hein. C'est-à-dire on dominait les petits vassaux qui se révoltaient, et la reine Zénobie a été donc battue, et Aurélien est obligé de trancher entre l'évêque légitime catholique d'Antioche et Paul de Samosate. Et il a dit, d'une manière tout à fait prophétique pour le futur de l'Église, il faut que l'évêque d'Antioche soit en communion avec l'évêque de Rome. C'est le premier qui a défendu, le premier qui a défendu donc la primauté pontificale. Et c'est amusant, c'est un païen qui l'a fait. Aurélien, c'est tout à fait extraordinaire. Et à ce moment-là, on a démis Paul de Samosate et on a remis un évêque catholique qui a continué donc à soutenir donc la foi catholique. Et quelque temps après, alors qu'on était encore en période de persécution, parce que on est encore en régime païen pendant longtemps, jusqu'à l'arrivée du grand empereur donc Constantin, qui en 325 sentit, pour unifier aussi l'Empire, parce qu'il voyait bien qu'il se disloquait en des factions opposées et qu'on venait vite aux mains et donc à la guerre, il fallait unifier cette nouvelle religion, cette nouvelle institution chrétienne, en réunissant un concile de tous les évêques. Et d'où le mot œcuménique, parce qu'il a fait venir les évêques du monde entier qui étaient sous la Pax Romana. Et en 325, donc à Nicée, il y a eu ce grand credo qui a été débuté, dans lequel on a professé avec tout l'élan de cette foi chrétienne dont nous parlions au début de l'émission, que le Fils de Dieu est engendré, non pas créé, de même substance que le Père. Homo ousios, le mot est un peu savant, vient du grec, mais dit bien qu'ils ont ensemble un même être, même s'ils sont réellement distincts comme personnes, ils sont un seul être. Et le Fils de Dieu n'est pas sorti du néant, il n'est pas d'une autre substance que le Père, comme l'affirmait un prêtre qui était à Alexandrie, qui s'appelait Arius, qui venait de Libye, et qui commençait à créer une distorsion dans la foi chrétienne.
Ce
qu'on appelait l'arianisme. Et il y avait comme une hiérarchie, il y avait tout en haut Dieu le Père, et puis il y avait des émanations qui étaient créées seulement, le Fils Et puis le Saint-Esprit, qui était la troisième émanation, mais c'était des réalités, certes divinisées, mais seulement créées. Et donc le Fils de Dieu n'était pas vraiment un de la Trinité, il n'était pas un égal au Père, il n'avait pas les attributs divins, il n'avait que les attributs d'une divinisation, auquel nous pouvons tous espérer, mais c'était un homme parmi les hommes, et le Saint-Esprit était encore une émanation seconde qui arrivait encore derrière lui. Donc tout cela faisait qu'on était très loin de la foi chrétienne, et il était très important pour la vérité chrétienne que les évêques du monde entier se coalisent et redisent où on en était vraiment de la foi chrétienne. Donc ce concile de Nicée a été très important parce que c'est la pierre miliaire, en quelque sorte, du début de la profession de foi de tous les chrétiens. Sans le concile de Nicée, on tombe dans le docétisme, on tombe dans le sabellianisme, qui sont finalement des retours à la foi juive. C'est-à-dire on ne s'émancipe pas de la foi juive. Or, le christianisme est vraiment dans la continuité, bien sûr, de la foi juive, mais avec un élément de rupture, un élément vraiment de distinction forte en annonçant que Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme, égal au Père, de même nature que le Père, mais une personne vraiment distincte du Père, sans fusion, sans confusion. Donc c'était très important ce moment de distinction finalement par rapport à la foi juive.
Évidemment, quand on t'écoute, pour ceux qui nous entendent, et pour nous-mêmes d'ailleurs, cela montre l'importance d'un symbole de la foi, d'un credo, de ce credo, où on a, certains ont l'impression que c'est un vieux texte, un texte qui peut plus passer aujourd'hui, mais on voit que c'est le fruit d'une élaboration, le fruit d'une réflexion, le fruit de mise au point profonde, d'un rapport à l'Écriture sainte, d'une réflexion de l'intelligence, et que sans elle, tous les mots comptent.
Finalement. Tous les mots comptent, et que notre credo, donc, chaque dimanche que nous répétons, nous aide à rester droit dans la foi.